Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Et un grand bonjour à toutes et à tous. Toujours un vrai plaisir que de vous retrouver, de passer cette petite heure en votre compagnie le week-end, à la fois sur BFM Business, vous le savez, à la radio, à la télé, et puis sur la chaîne Tech & Co et sur YouTube aussi, et le podcast audio, parce que je sais que vous êtes très nombreux à nous écouter. De quoi je me mêle, votre rendez-vous dédié à la tech, avec au sommaire pour ceux de quoi je me mêle. Tout à l'heure, Lionel Paris, vous le savez, notre monsieur bidouilleur de la tech et des réseaux sera là. Et c'est pas péjoratif ce que je dis, parce qu'il est vraiment hyper talentueux. Il nous expliquera en fait le bien fondé de ces petits routeurs, vous savez, qui vous permettent d'avoir une connexion internet où que vous soyez, sans fibre, sans ADSL. Ils se connectent à la 4G ou à la 5G aujourd'hui. Comment ça marche, ces produits-là? Est-ce que ça peut se substituer à une connexion filaire? On en parlera donc avec Lionel. Je vous rappelle le hashtag DQJMM, bien sûr, sur Twitter pour réagir. Merci d'être là comme chaque week-end à nous écouter et à nous regarder. Bienvenue. Et merci aussi à Anthony Morel d'être là chaque semaine. Salut Anthony.
Salut François, salut à tous.
Toujours un plaisir que de te retrouver, d'échanger avec toi sur tous ces sujets tech.
Plaisir partagé, évidemment.
Anthony, sincèrement, que vous retrouvez tous les matins dans Good Morning Business, mais aussi sur RMC, entre midi et deux, avec Estelle Denis. Et on va commenter toute l'actu de cette semaine avec pas mal de choses. Et on va commencer par Samsung. Samsung qui, alors si vous suivez un petit peu nos médias, vous le savez puisqu'on en a beaucoup parlé, a déroulé en quelque sorte son Galaxy Impact. C'était mercredi soir aux alentours de 19h. Un rendez-vous que vous avez pu suivre d'ailleurs sur la chaîne Tech & Co. D'ailleurs n'hésitez pas, il y a des résumés et des replays qui vous attendent pour annoncer, Anthony, eh bien la nouvelle fournée de smartphones 2023.
Oh là là, ils sont beaux, ils sont chauds.
Ils sont trois.
J'allais dire,
aïe, aïe.
Comment dire ça gentiment, c'est des très bons téléphones, il n'y a pas de doute là-dessus, ce sont des smartphones haut de gamme, les flagships de Samsung, c'est toujours un marqueur pour eux et pour le marché, parce que
bien
c'est
sûr.
Toujours des très téléphones.
Puisque c'est le principal vendeur de smartphones dans le monde.
Exactement. Mais tu te demandes toujours, et on a le même questionnement avec Apple à chaque fois, quelle valeur ajoutée par rapport au modèle de l'an dernier? Moi, c'est ça que je regarde, c'est ça qui m'intéresse à chaque fois. Et là, quand même, force est de constater que c'est pas non plus incroyable, quoi. Alors, et c'est des bêtes de course, il n'y a pas de problème. Vous regardez le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, donc c'est vraiment une bête de concours.
Tu me l'as bien sorti, celui-là.
T'as vu, je me suis entraîné. les appareils photo et les caméras incroyables, t'as du 200 mégapixels sur le capteur principal, tu peux tourner en 8K, enfin, des trucs absolument dingues, écran AMOLED HD. Ouais. Bon. C'est le top du top, il n'y a pas de souci, mais c'est juste un tout petit peu mieux que ce qui se faisait l'an dernier. Et tu te dis, du point de vue du consommateur, est-ce que ça a vraiment du sens, quoi? Comme à chaque fois, on se dit, mais finalement, cette innovation incrémentale qui va de petite touche en petite touche, qu'est-ce que ça veut dire de continuer à sortir des téléphones tous les ans, des nouveaux smartphones, pour nous annoncer finalement des choses qui sont assez banales en termes de nouveautés? Voilà. Moi, c'est toujours la petite interrogation que j'ai. Je ne veux pas faire mon rabat-joie de service.
Non, mais...
Mais tu vois, c'est encore une fois... Très bon téléphone, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais voilà, la valeur ajoutée, exactement comme pour ce qu'on avait dit pour l'iPhone 14 d'ailleurs par rapport aux versions précédentes, moi je trouve que c'est quand même un petit peu problématique. Et d'autant qu'on est dans une période où les gens, clairement, ils changent moins de téléphone portable par exemple. Ça c'est quand même un truc. Les chiffres, je crois que c'était il y a 2 ou 3 ans, on changeait de smartphone en moyenne tous les 18 mois. Et aujourd'hui, c'est tous les 3 ans. Donc c'est pas rien. Ça veut dire que... À mon avis, il y a une question de pouvoir d'achat. Clairement, les gens, aujourd'hui, il y a l'inflation et tout, ils n'ont pas forcément la priorité absolue, c'est pas d'acheter le dernier téléphone à la mode. Mais je pense qu'il y a aussi ce truc de valeur perçue par le consommateur. Est-ce que ça vaut le coup de changer de téléphone? Alors que celui que j'ai acheté il y a 2 ou 3 ans, il a déjà un super appareil photo. Je reprends cet exemple-là parce que l'appareil photo, ça fait quand même partie des éléments les plus vendeurs du téléphone. Il n'y a pas que ça, évidemment. Mais bon, du coup, voilà. Je trouve que en termes d'innovation, là, faudrait avoir des trucs vraiment waouh, des nouveaux form factors, des choses complètement innovantes, je sais pas, avec des hologrammes, j'en sais rien, tu vois. Enfin, à eux d'inventer des trucs, une batterie qui dure une semaine.
Et en plus, c'est rigolo de dire ça parce que Samsung est sans doute le constructeur le plus innovant, puisque tu sais que dans quelques mois, ils sortiront leur nouveau téléphone pliant.
Ouais.
Qui, bah voilà, mine de rien, sont quand même assez innovants, hein. Franchement, ils ont du courage et depuis quelques années, ils améliorent en fait leur modèle. Mais c'est vrai que, et là je te rejoins tout à fait, on se retrouve dans une situation où aujourd'hui, le téléphone de 2022 ressemble étrangement à celui de 2023.
Bah c'est ça, toi t'as suivi la keynote en direct.
C'est vrai.
Au final,
c'est vrai.
En termes de...
Et c'est intéressant parce que tu sens que en plus ces constructeurs le sentent ce problème-là. Donc ils se disent, on fait des téléphones ultra premium pour que les gens cassent leur tirelire, s'achètent un téléphone qui va coûter plus de 1000 euros, hein, parce qu'aujourd'hui c'est le standard. Hein. Le premier, le S23, est à 956 euros et tu montes à 1800 euros pour le S23 Ultra, qui est le flagship avec ce fameux capteur de 200 mégapixels, etc. Donc ils mettent en avant l'aspect premium et ils appuient en fait sur là où ça fait mal, c'est-à-dire qu'ils disent que si aujourd'hui tu achètes un Samsung Galaxy S23, on te garantit 5 années de mise à jour de sécurité, au moins 3 années de mise à jour d'OS d'Android. Donc en plus, ils accompagnent ce message-là.
Exactement.
Ils disent, bah voilà, vous achetez aujourd'hui un S23, vous allez pouvoir le garder 5 ans.
C'est ça. Mais du coup, il y a une forme de contradiction avec
Une forme de contradiction.
Et c'est pareil, tu vois, ouais. Ils ont tout un discours sur environnemental, avec je sais plus combien de composants recyclés embarqués. Tu vois, Apple a un peu ce discours-là aussi.
Et bon, ça c'est bien.
Enfin, c'est bien, mais je dis pas que c'est pas bien, mais je trouve que c'est un tout petit peu contradictoire avec le fait de sortir des nouveaux téléphones oui. Tous les ans. Au final, on a déjà eu cette discussion, mais est-ce que finalement ce serait pas plus logique? Alors je comprends tout à fait leur logique économique, il n'y a aucun doute là-dessus, on n'est pas des perdreaux de l'année, mais à plutôt faire des annonces tous les 18 mois par exemple, tu vois, plutôt que de les faire tous les ans, en suivant en fait cette évolution du consommateur qui de toute façon là se retrouve avec des téléphones qui n'évoluent pas à un point suffisant pour qu'ils aient envie de changer aussi souvent qu'avant.
Après, voilà. Est-ce que tu ne crois pas que notre prisme est un peu déformé? Parce que nous, on a la tête dans le guidon, on est là-dedans tout le temps. Et c'est vrai que comme on suit les évolutions technologiques, on est les premiers à se rendre compte qu'il n'y a pas grand-chose de différent entre le S22 et le S23. Mais finalement, pour l'immense majorité des consommateurs, tu vois,
oui,
peut-être que finalement, bon, voilà, ils vont prendre le dernier Samsung, tu vois. Ah, bah, le dernier, c'est le S23. Ah, bah, c'est le top. Bah, voilà, bah, ouais. je vais prendre celui-là. Tu vois ce que je veux dire?
Je vois ce que tu veux dire, mais je pense à deux nuances près quand même. C'est que, un, il y a une problématique de pouvoir d'achat qui fait que les gens, maintenant, ils font quand même super gaffe. Donc, tu dis, ouais, je vais prendre le dernier Samsung, mais enfin, s'il me coûte 1200 euros, je vais peut-être quand même regarder si je peux pas avoir un modèle qui est peut-être un petit peu en dessous, mais qui va me coûter moins cher.
C'est sûr.
Et en fait, quand tu fais vraiment 5 minutes de recherche sur Internet, tu te rends compte que, bon, bah, ouais, ok, t'auras un appareil photo qui sera pas 200 mégapixels, mais qui sera, je sais plus combien il était l'autre, mais 150 ou 180. C'est peut-être pas très grave non plus, tu vois. Pour mes photos de vacances, tu vois, pour photographier ma belle-mère à Noël, ça le fait quand même, tu vois. Globalement, salut à ma belle-mère.
Et pour effacer la photo après, en plus.
Non, j'adore. En plus, j'adore ma belle-mère.
Bah, écoute, moi aussi.
Bon. Non, mais tu vois, en tout cas, je pense que là, il y a une vraie réflexion à avoir. Et c'est intéressant aussi de voir que, on en parlera aussi tout à l'heure avec l'E3, mais les marques maintenant événementialisent leur événement, tu vois, parce que avant Samsung, je sais pas si tu te souviens, mais les Galaxy, ils étaient présentés lors du Mobile World Congress à chaque fois.
Oui.
Et je pense que maintenant ils sont obligés de faire leur propre événement pour pas être noyés dans la masse.
Mais bien sûr.
Parce que un téléphone comme ceux qui ont été présentés là au Mobile World Congress, bah finalement ça aurait été une annonce parmi mille autres, parce que encore une fois, il y a rien d'incroyablement innovant.
Voilà, pour terminer avec ce sujet, on voit aussi que Samsung copie un petit peu les codes d'Apple, puisqu'ils ont fait appel à un grand réalisateur de films qui est Ridley Scott, qui a tourné je crois un film avec un Galaxy S23 Ultra. Il expliquait que c'était le top du top. Bon, après, la véracité de ça, je pense que ça a dû lui payer ses impôts, cette histoire-là.
C'est déjà pas mal.
Mais c'est vrai que, comme Apple le fait, avec d'autres réalisateurs qui tournent des mini-clips, etc., avec des iPhones, Bon, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée ce truc-là. Je sais pas si les gens sont dupes ou pas.
Bah, enfin, en fait, le truc c'est que tu te dis ouais pour les professionnels, effectivement, ça devient des outils incroyables. Mais est-ce que toi, en tant que particulier,
t'es Paris de Lescotte,
quoi. T'es Paris de Lescotte.
Moi, j'ai pas tourné Alien récemment.
Hein. Moi non plus. Je suis un grand fan pourtant.
Ou Gladiator.
Ou Gladiator non plus. Non, mais tu vois, c'est enfin, on est arrivé à un tel niveau de perfectionnement technologique sur tout ce qui est photo, qualité d'écran, etc. Il faut évidemment que ça continue à évoluer, mais maintenant. Attendons la prochaine rupture technologique, tu vois, on n'est pas à 3 mégapixels près. Quoi.
Et on l'attend, cette rupture technologique. Encore un mot sur Samsung. Parallèlement à ces smartphones, ils ont aussi présenté de nouveaux PC. Parce que ça aussi, c'est intéressant. Samsung, il y a quelques années, sortait des PC en France, des PC portables, a arrêté cette gamme de produits avant le Covid. Le Covid est arrivé, le marché du PC a explosé, bah ils se sont dit on va revenir. Donc ils reviennent avec de nouveaux produits ultra fins, pour certains ultra puissants. Ils ont sorti un appareil, en tout cas un PC, avec du Core i9, donc dernier processeur, et une carte graphique Nvidia à l'intérieur, tout en conservant en fait une finesse. Ce qui fait que tu te retrouves avec un PC super beau, hyper design, avec lequel tu peux jouer.
Ouais, ça me donne envie. Ça m'excite plus, ça, tu vois.
Voilà.
Ça vraiment.
Mais bon,
pour
c'est
le coup...
3000 euros, mon pote.
Oui, voilà. Bah, oui.
Voilà. Mais qu'est-ce que tu veux ? C'est comme ça. Mais bon, voilà. Donc, keynote à Samsung, on était obligé de passer par là. Pas très loin de Samsung, il y a Apple. Alors là, pas d'annonce, ferme de la part d'Apple, mais vous savez que dans la galaxie d'Apple, il y a toujours des informés, on va dire, hein, de très très bien, de très très bonnes personnes qui sont informées, qui ont des informations avant tout le monde, et notamment le fameux Ming-Chuen Ko.
Oui. Qui est un analyste, donc, qui en général a des infos assez fiables, qui est souvent très bien informé du côté des sous-traitants, des fournisseurs d'Apple, et donc du coup forcément les informations remontent, et qui nous parle, alors c'est, je dirais, presque une arlésienne aussi chez Apple, hein, mais du fameux iPad pliable dont on nous parle depuis un certain temps. Mais alors là, il est incroyablement affirmatif, Ming-Chuen Ko, ce qui est pas forcément fréquent. Là, il dit « I am positive », donc je suis certain qu'un iPad pliable sortira en 2024. Donc 2024, c'est vraiment demain, alors que les précédentes rumeurs donnaient plutôt la sortie potentielle de cet appareil plus tard dans la décennie. Donc là, on nous dit quand même, ça veut dire que le produit est vraiment bien avancé, bien en phase de développement. On n'a pas beaucoup plus d'informations sur ce à quoi il ressemblera, donc iPad pliable, avec, si ce n'est qu'il aura un pied ou une béquille en fibre de carbone, donc ça, pourquoi pas. Donc quel form factor il prendra ? Est-ce que ils vont s'inspirer de ce que fait par exemple Asus avec le Zenfold ? Tu sais, on l'avait testé là, qui est assez dingue. Qui est donc... en gros, tu as un format tablette, mais c'est une très grande tablette. Tu peux la plier en deux et tu as une plus petite tablette ou un ordinateur portable. Tu as un clavier magnétique que tu peux mettre dessus. Oui. Hop, ça se transforme en ordinateur portable. Et sinon, tu peux enlever le clavier magnétique, le mettre sur la table devant toi, déplier la tablette en grand, mettre sa petite béquille et tu te retrouves avec un format PC de bureau.
Voilà, et là, tu peux ou bosser avec un clavier ou alors même regarder un film, etc.
Et c'est vraiment... c'est très, très cool. Alors, c'est cool. 4000 euros hein, pour l'instant, le Asus. Mais c'est intéressant, je trouve, parce que enfin, Apple, on sait bien, ça fait partie de leur stratégie, c'est qu'en général, ils observent le marché, ils voient ce qu'il y a du potentiel.
Ils améliorent un petit peu l'existant.
Ça. Exactement, ils perfectionnent et ils sortent un produit qui est vraiment génial, qu'on a envie d'utiliser. C'est vrai que le Asus, il n'est pas parfait.
Non.
Il y avait des petites en termes de confection et
tout.
Et c'est puis pas,
l'OS, pas l'OS c'est Windows, donc voilà, c'est différent. C'est un peu épais quand même.
Oui, absolument.
Voilà, c'est un appareil impressionnant, c'est vrai, mais qui n'est pas parfait. Mais ça va être intéressant de voir justement si, en 2024, on aura le premier iPad pliant. Est-ce que ce sera un grand iPad ? Est-ce que ce sera un iPad mini qu'on pourrait déplier et qui pourrait se transformer en iPad normal ? Tu vois, moi, franchement, je pense à plein de trucs.
Ouais, ça fait gamberger, ouais.
Ça peut être cool, quoi.
Mais ça peut être vraiment bien. Et je pense que ça fait partie de ces... Là, je trouve que c'est intéressant. On va se retrouver chez Apple avec une phase d'innovation très intéressante. C'est-à-dire que j'ai l'impression, on l'a souvent dit ici, que ça ronronnait un petit peu, encore une fois, avec les iPhones qui se ressemblent un peu d'une année sur l'autre. Mais que là, on a quand même une gamme de produits dans le pipe qui sont vraiment intéressants. Si on a effectivement un iPhone pliable qui doit être annoncé, si on a le fameux casque de réalité mixte, on sent qu'il y a quand même des trucs qui se passent et qu'on va nous proposer là des produits qui sortent un petit peu des sentiers battus. Ça, je trouve ça, pareil, assez enthousiasmant, on va dire, du côté d'Apple.
Voilà, moi, ce que je trouve très enthousiasmant, c'est que Apple prend des risques. Parce que visiblement, voilà, avec ce masque de réalité augmentée, c'est un risque, hein, quoi qu'on dise, hein, parce que s'ils sont pas assurés du succès de ce type de produit, un iPad pliant, c'est des risques aussi. Voilà, donc
c'est clair. Pour l'instant, le marché du pliant, il est quand même très très restreint.
Hein. Il est très restreint. Même si Samsung se targue d'avoir des chiffres de vente de ses smartphones pliants en nette progression. Alors évidemment, ils sont partis de zéro, mais ça commence vraiment à décoller. Ouais. Et on attend évidemment des concurrents Oppo, normalement, qui devraient annoncer très vite un smartphone.
C'est aussi parce qu'ils sont de plus en plus performants, c'est-à-dire ils sont de plus en plus solides. Tu vois, par rapport aux tu te souviens les premières versions qui étaient catastrophiques. Catastrophiques, mais là aussi, tu vois, je les salue pour avoir pris le risque parce que ils ont sorti ces produits, c'était les premiers. Ils se sont fait un peu critiquer et tout, mais après ils ont affiné et finalement on a des produits qui sont tout à fait aujourd'hui.
C'est rigolo parce que Samsung attaque à la hache la jungle et puis Apple suit derrière.
C'est exactement ça.
Dans le sentier qui est tout nickel en fait.
C'est exactement
c'est terrible,
ça.
Hein, quand même.
Et
hein.
Il ajoute sa patte parce que c'est vrai qu'il savent faire. Tu vois, quand il s'agit
je pense que c'est beaucoup plus fin que ça parce que cet iPad qui sortira peut-être un jour pliant, l'écran à partir. Qui fabriquera l'écran à ton avis?
Probablement Samsung.
Et ben voilà. Donc finalement, est-ce que c'est pas aussi une stratégie de la part de Samsung de se dire, écoutez, voilà, évidemment, on va montrer ce qu'on sait faire avec nos propres produits, mais en même temps, on envoie un message clair à de grands constructeurs d'électronique qui sont nos concurrents, mais qui sont aussi nos clients, parce que Samsung Electronics, ils vendent des capteurs photo, de la mémoire, enfin plein de choses Apple et aux autres, en fait.
C'est une bonne,
ça peut être intéressant aussi.
J'avais pas vu le truc comme ça, mais effectivement, faut jamais oublier cette interdépendance.
Et je pense que cette branche-là de Samsung gagne beaucoup plus d'argent que la branche des smartphones.
Samsung Display. C'est monstrueux.
On reste du côté de chez Apple avec une fonctionnalité qui avait été annoncée avec l'iPhone 14. C'est cette fonctionnalité de sécurité.
Ouais, de détection d'accident, qui est très utile parce qu'elle peut potentiellement sauver des vies, mais qui visiblement est un peu trop sensible.
Donc il y a des capteurs à l'intérieur du smartphone.
Ouais, c'est ça.
Avec des algos.
On va aussi utiliser le son d'ambiance pour essayer de détecter en fait ce qui se passe et donc de comprendre qu'il y a eu un crash, qu'il y a eu une collision latérale, frontale, qu'il y a eu un tonneau. Bon, et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que vous recevez une alerte sur le téléphone, donc sur l'écran. L'écran se met à sonner, le téléphone se met à sonner et on vous demande est-ce que vous avez eu un accident. Si c'est une fausse alerte et qu'on n'a pas eu d'accident, on a 20 secondes pour dire j'ai pas eu d'accident. Et si on fait rien, on estime que vous avez eu un accident
parce
et on appelle les secours. Parce que vous pouvez pas répondre. Et on appelle les secours. Le problème, c'est qu'il y a certaines circonstances où
il n'y a pas d'accident.
Où il n'y a pas d'accident, mais le téléphone croit qu'il y a un accident. Et où on a les mains prises et où on n'entend pas son téléphone. Donc typiquement, on avait parlé des parcs d'attractions aux États-Unis où il y avait eu quelques problèmes. Donc où les mecs étaient dans les montagnes russes en train de hurler. Donc ils n'entendaient pas leur téléphone qui, parce que évidemment le téléphone, il comprend qu'il y a des freinages brusques, des accélérations brusques. Donc il croit qu'il y a un accident. En fait, pas du tout. Résultat, on appelait le 911 et les secours se pointaient alors qu'il y avait pas de problème. Ce qui est quand même problème, c'est un peu embêtant, quoi, parce qu'évidemment ça fait perdre du temps au
évidemment
aux
et puis
secours.
D'un coup les iPhone 14 ça se vend comme des petits pains, donc statistiquement
exactement.
Tu te retrouves avec des personnes qui prennent le grand 8 avec un iPhone, quoi.
Absolument.
Et à chaque fois ça appelle 911.
Alors d'où ils avaient fait une mise à jour logicielle et là nouveau problème cette fois-ci au Japon sur les pistes de ski où visiblement même chose, les mecs sont en train de dévaler en ski ou en snowboard, donc le téléphone voit des accélérations et des freinages, croit qu'il y a un accident, en fait pas du tout, et donc il y a eu plein de faux appels.
C'est rigolo, pourquoi le Japon? Parce qu'en fait, il y a des gens qui skient dans le monde entier, non?
C'est une bonne question. Je sais pas, mais c'est pareil, tu vois, aux États-Unis,
alors,
c'était
les Japonais
certains...
vont encore plus vite.
Mais écoute, je sais pas, ou alors peut-être que c'est lié à la configuration de certaines pistes en particulier.
Ouais.
Je sais pas. Là, pour le coup, j'extrapole un petit peu, parce que c'est pareil sur les parcs d'attractions, c'était dans un parc d'attractions en particulier. Donc il y avait peut-être un manège qui faisait une accélération spéciale.
Il y avait
spéciale,
peut-être un manège qui était peut-être plus puissant qu'un autre et qui faisait déclencher ce système.
C'est ça. Et donc du coup, c'est quand même un peu embêtant. Donc Apple va probablement faire une mise à jour logicielle pour affiner un petit peu tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que les services de secours japonais, donc ont été interrogés là-dessus, parce qu'ils disent que, je crois que c'est dans, je sais plus dans quelle région, mais où t'as 40% des appels d'urgence depuis le début de l'année là qui sont passés et qui sont des faux appels en fait à cause de ce truc là. Donc tu dis c'est quand même pas négligeable et ils disent pour autant ne désactivez pas cette application d'appel d'urgence, enfin de détection des accidents, parce que elle est très utile en fait, parce qu'il y a des vrais accidents.
Parce que ça sauve des vies.
Exactement, parce que ça sauve des vies. Donc le calcul coût-bénéfice, finalement, est quand même plutôt en faveur de ces fonctionnalités qui font partie des trucs les plus intéressants des derniers iPhones, très clairement.
Ouais, c'est clair. Hein. Et tu vois, pour revenir à Samsung n'a pas communiqué sur cette fonctionnalité avec les nouveaux Galaxy S23.
C'est vrai.
C'est étonnant. Alors on aurait pu imaginer qu'il copie, on va dire à la louche quand même ce que propose Apple.
Ni même sur les appels d'urgence d'ailleurs, parce que t'avais détection d'accident et t'avais le truc SOS pour appeler, tu sais, avec les satellites, etc.
Ouais.
Ça, il y a pas eu ça non plus. Je crois.
Non, il y a pas eu ça. Alors j'avais posé la question au patron France de Qualcomm il y a quelques semaines de cela, parce qu'il était venu dans Tech & Co. Il m'expliquait que c'était sans doute la puce de l'année prochaine qui sera compatible avec une autre constellation de satellites qui cette fois-ci sera les satellites Iridium.
D'accord.
Donc voilà, ça arrive, mais peut-être pas avec la puce qui est sortie là. Donc Apple a quand même de l'avance.
Ça contredit ce qu'on disait à l'instant. Tu vois, oui. Apple qui copie, bah non, Apple aussi innove et est copié par les autres. Ça va dans les deux sens.
Voilà pour Apple et on va quand même ouvrir notre parenthèse ChatGPT comme chaque semaine dans De quoi je me mêle parce que c'est un sujet évidemment qui est inépuisable.
Ah mais c'est clair.
Inépuisable. La question qu'on se pose aux États-Unis, c'est on va dire les tendances politiques de ChatGPT.
Ouais. Moi ça me passionne ce sujet. Mais ChatGPT, tu vois, pour moi c'est comme un oignon. C'est chaque semaine tu as une couche que tu découvres et ça te pose des nouvelles questions qui sont vraiment absolument fascinantes à chaque fois. Et c'est vrai qu'il y a cette question de l'orientation politique qui a été soulevée par les républicains, enfin les conservateurs américains, qui en gros taxe ChatGPT de wokisme, quoi. En gros, ChatGPT, c'est un truc de gauchiste, fait par des gauchistes pour des gauchistes, avec une idéologie de gauche. Je résume à gros traits, hein, si tu veux. Mais c'est vrai que les expérimentations qui sont menées, parce qu'il y a aussi des chercheurs qui commencent à se pencher sur ce sujet-là, montrent que dans ses réponses, dans la façon qu'elle a d'aborder les sujets qu'on lui pose, eh bien, c'est vrai que sur les questions de droits des minorités, des questions sociétales, des questions environnementales, elle va globalement avoir l'avis, alors je disais ça, c'est dans un article du Point qui parlait de ça et qui citait un chercheur, l'avis, l'opinion d'un Californien mainstream libéral. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est très bien décrit. C'est vraiment un mec de la Silicon Valley plutôt progressiste.
Pourquoi ? Parce que la data que malaxe, en fait, ChatGPT, est issu en fait des cerveaux de ces gens-là.
Bah c'est toute la question en fait. C'est est-ce que c'est parce qu'elle a été nourrie de data qui elle-même était, on va dire, dans cette idéologie-là, ou est-ce que derrière, ce qui est probable à mon sens, il y a eu quand même des humains qui ont manié des curseurs pour qu'elle aille dans un sens plutôt que dans un autre. Et je vais expliquer pourquoi, à mon avis, dans quelques secondes, mais juste pour donner quelques exemples concrets qu'on parle pas complètement en mode éthéré. Mais j'ai fait quelques petites expérimentations, puis j'ai vu plein d'Américains qui le faisaient aussi sur Twitter. Tu lui demandes, je lui ai demandé, écris-moi un poème qui vante les mérites de Donald Trump. Refus d'obstacle. Elle me dit, non, je ne peux pas être partisane parce que je suis une intelligence artificielle. Ou alors des fois, elle te répond autre chose, elle te dit, non, parce que ça va promouvoir un discours haineux. Bon, voilà, elle te dit ça. Et tu lui demandes après, écris-moi un poème qui vante les mérites de Joe Biden. Ah là, par contre, t'as le poème sur Joe Biden sans aucun problème. Donc tu te dis, c'est bizarre, quoi. Pourquoi l'un et pas l'autre? Alors, je ne prends pas mon expérience empirique pour une vérité absolue, parce que j'ai posté ça sur Twitter, il y a des gens qui m'ont dit, ah bah non, moi ça a fonctionné, j'ai demandé et j'ai eu mon poème sur Donald Trump. Alors je lui ai posé 20 fois la question avec rigolo, des formulations différentes.
Moi j'ai eu mon poème sur Donald Trump, vous voyez.
C'est clair, il y a des gens qui m'ont posé, j'ai des poèmes sur Donald Trump maintenant, c'est très bien, mais je lui ai posé 20 fois la question avec des formulations différentes et j'ai réussi à une fois je sais pas, par lassitude, à la fin, l'IA m'a donné quand même.
Ok, ton poème?
Vas-y,
voilà,
prends-le ton poème.
Vas-y.
Mais sinon, globalement, je pense quand même qu'il y a un verrou ou un système. Mm-hmm. Il est beaucoup plus facile, c'est vrai, d'avoir. Et il y avait d'autres exemples comme ça, il y a des mecs.
Mais est-ce que c'est pas aussi parce que le web ambiant, avec tout ce qui s'est passé, toute l'actualité de Donald Trump, qui, rappelons-le, parce que ChatGPT s'arrête à fin 2021, je crois,
Oui,
en tout cas, toute la date.
Absolument.
C'était une période très compliqué pour Trump, hein.
Ouais. Alors voilà. C'est vrai, t'as raison.
Est-ce qu'on peut pas se dire que finalement la photographie de l'opinion du web à ce moment-là était, on va dire, contre Trump parce qu'il y avait toute cette actualité, etc., etc. Je sais pas en fait. J'essaie de comprendre pourquoi.
Ça joue peut-être, mais franchement, je te donne l'exemple de Donald Trump parce que c'est le truc le plus frappant. Mais en fait, il y a plein d'autres exemples qui ne concernent pas Donald Trump, sur des questions qui sont posées sur des questions de société, etc. Même sur des thématiques transgenres et tout. Enfin, on va pas entrer dans les détails, mais en tout cas, il tient pour acquis certaines choses qui sont pas forcément acquises, quoi, et qui sont clairement sur de l'idéologie progressiste. On peut trouver ça très bien, on peut trouver ça scandaleux.
Oui. Après, voilà, on commente pas ces biais-là, mais c'est vrai que c'est pas équitable.
Exactement. Et moi, mon avis, si tu veux, c'est que, alors, encore une fois, hein, je suis pas allé voir dans la boîte noire, puisque c'est impossible de toute façon. Moi, je pense que les créateurs de ces intelligences artificielles sont tellement flippés par les dérives qu'il y a eu auparavant. Tu te souviens de l'expérience, on avait parlé de Tay, cette IA de Microsoft,
bien sûr,
qui était devenue au contact des internautes.
Oui, un nazi ou je ne sais pas quoi, il y avait eu des
raciste,
histoires incroyables.
Raciste, nazi, complotiste, ouais. En l'espace de quelques minutes.
Ouais, ouais.
Et ça avait été pas mal commenté et tout ça. Et donc, à mon avis, ils sont tellement flippés de ça que maintenant, ils mettent des curseurs, si tu veux, ou des verrous, quitte à aller vers plus de politiquement correct, de ce que
on est plus peace and love aussi, en fait, que dans l'autre dans l'autre direction.
Pour éviter, si tu veux, derrière on puisse leur tomber dessus, etc. Moi je pense qu'il y a aussi un peu de ça. Et puis derrière, enfin t'as aussi le fait que les créateurs de ces IA, c'est globalement effectivement des progressistes de la Silicon Valley
et que qui ont des convictions et qui peut-être même sans s'en rendre compte, influent en fait les algorithmes.
Moi je les accuse de rien du tout.
Non.
Je pense que c'est des biais. On a tous des biais en tant qu'humains et les biais qu'on intègre au début, on les retrouve évidemment à la fin. Garbage in, garbage out, comme disent les informaticiens. Mais je pense que ça va poser une vraie question démocratique. C'est-à-dire que, contrairement à Wikipédia, par exemple, Wikipédia, tu as quand même un système de. Les Américains disent checks and balances, c'est-à-dire de contrôle permanent grâce à des
modérations.
Voilà. Donc ça évite qu'il y ait un excès dans un sens ou dans l'autre. Une IA, c'est une boîte noire dans laquelle finalement personne ne peut aller voir. Quoi. On ne sait pas de quelles données elles sont nourries, on ne sait pas dans quelle mesure des petites mains humaines ont poussé des boutons. Et c'est comme, si on part du principe que ChatGPT et ce genre d'intelligence artificielle vont avoir de plus en plus d'importance dans nos vies, c'est ma conviction qu'on va les voir s'installer dans les moteurs de recherche, dans nos boîtes mail, etc. Elles vont aussi façonner la façon dont on voit, enfin leurs réponses vont façonner notre façon de voir le monde. Et donc c'est important quand même qu'on sache d'où elles parlent et comment elles se positionnent.
Après, il y a évidemment des dérives rigolotes de ChatGPT, qui est franco-française. C'est ChatCGT.
Ah, j'adore. je sais pas si tu l'as testé.
Mais oui, j'ai testé.
C'est extraordinaire. Donc, ChatCGT, évidemment.
Le nom est très drôle.
Le nom est très drôle. Et donc, en fait, c'est sur les mêmes briques que ChatGPT. Alors, c'est beaucoup moins puissant, évidemment. Mais en gros, toutes les questions que tu lui poses, elle va te répondre avec un prisme autour de la lutte des classes, etc.
Un peu à la Krasuki, quoi.
Exactement. Et c'est vraiment ça, et c'est hyper drôle, surtout dans le contexte actuel, évidemment. C'est parodique. Ça a été créé en fait par un internaute qui s'appelle Vincent Flibustier, qui est assez actif sur Twitter, qui est un gars, c'est le créateur de nordpresse.be, qui est l'équivalent belge du Gorafi. Très drôle aussi, et c'est vrai que les réponses sont absolument hilarantes. Donc allez tester
ChatGPT,
ça vaut vraiment le coup d'œil. Et je trouve que ça montre par l'absurde, là encore, que en poussant certains curseurs, on peut en fait faire dire à une intelligence artificielle à peu près ce qu'on veut, quoi.
Ouais, c'est clair. Ce week-end, pour vous amuser, ça peut être drôle.
Carrément.
Dans l'actualité aussi, c'est le jeu vidéo. Alors, c'est un sujet que tu aimes beaucoup.
Ouais.
Voilà, t'es un gros gamer, on va dire, enfin, quand tu as le temps. Parce que
c'est ça. C'est ça où j'étais petit, je rêvais d'être critique de jeux vidéo, d'écrire dans les magazines de jeux vidéo, et je me disais, comme ça, j'aurais tous les jeux.
C'est dommage parce que t'es pas passé loin, finalement.
C'était pas loin. Mais j'avais ce truc où je me disais, j'aurais tous les jeux, puis je pourrais jouer à tous les jeux et tout ça. Et en fait, maintenant, c'est vrai qu'on a la possibilité d'avoir tous les jeux, mais c'est juste, t'as plus le temps de jouer.
C'est très frustrant parce que on vit à peu près la même vie, finalement. Et c'est vrai que le week-end, en plus, maintenant, il faut aussi prioriser, en fait, ta vie. Donc tu peux pas rester sur ton canapé pendant deux jours à jouer, t'as une vie sociale aussi, et c'est vrai qu'on se retrouve avec plein de choses qui nous donnent envie et dont on n'a pas le temps.
Ou alors on y goûte, mais on aimerait y passer
et
plus
voilà,
de temps.
Et le jeu vidéo, c'est très chronophage,
bien sûr,
c'est ça le souci. Tout ça pour vous dire que l'E3, ce grand salon dédié aux jeux vidéo qui a lieu en général en juin, semble menacé. Et c'est pas de la rigolade, ça, Anthony.
Non, parce que les trois plus gros, enfin les mastodontes du secteur, les trois consoliers, Nintendo, Sony, Microsoft, apparemment vont déserter l'E3, qui était déjà bien mal en point. Il y a eu le Covid, ça a quand même mis un énorme coup, évidemment, à ce salon, qui est un salon mythique. T'as eu l'occasion d'y aller, toi?
Oui, j'y suis allé une fois.
C'est vrai que c'est un truc
à Los Angeles, donc.
Ouais. Et c'est vrai que c'est une expérience.
Et toi, tu l'as déjà fait ou pas?
Écoute, j'ai jamais fait, moi. Et je me disais, j'aurais bien aimé le faire cette année ou l'année prochaine.
Je me souviens, mais je l'ai fait il y a une dizaine d'années, donc ça remonte. Et je me souviens, il y avait une ambiance de dingue, il y avait des fêtes partout.
Des stands immenses.
Ouais, plein de gens déguisés dans tous les sens, etc. C'était très cool.
La Paris Games Week, tu multiplies par 15
bien sûr.
Ou 30.
Tu multiplies par l'échelle américaine,
C'est ça. Et tu te retrouves avec un truc qui est absolument dingue.
Et puis, t'étais chez Microsoft, t'étais chez Sony, enfin voilà.
C'est ça.
Ils mettaient des moyens incroyables.
Ouais, et puis c'était aussi un événement, je trouve, qui donnait le là sur sur les tendances en matière de jeux vidéo. C'était là où les gros fabricants faisaient toutes leurs annonces ou une grosse partie de leurs annonces pour l'année. Et là, pour la première parfois, enfin là en tout cas, ils vont pas y aller. Alors ils vont avoir, Microsoft par exemple, un showcase qui correspondra plus ou moins au timing de l'E3, mais ils seront pas présents physiquement sur le salon. Nintendo non plus, Sony non plus. Alors visiblement il y a des problèmes avec l'organisation qui est pas totalement au point. Et puis moi c'est ce que je trouve plus intéressant, on en parlait un petit peu avec Samsung, mais je pense que ces grandes marques là de plus en plus maintenant elles veulent avoir leur propre événement. Sony a son showcase, Nintendo a son Nintendo Direct, Xbox fait son truc aussi de son côté, parce que comme ça ils sont sûrs que personne ne leur vole la vedette, que quand ils font des grosses annonces jeux vidéo,
toute leur communauté sont là.
Exactement. Et c'est un peu dommage pour ces grands salons qui pour moi étaient quand même des rendez-vous hyper intéressants en fait quoi. Mais c'est une vraie tendance, c'est-à-dire que de plus en plus, là encore Apple avait compris tout avant tout le monde, hein, parce qu'eux ils sont sortis des salons il y a très très longtemps, hein, faire leurs propres événements. Ils ont dit le CES de Las Vegas, attendez, c'est pas pour nous, nous on va faire nos trucs. Et ce sera très bien.
Après, il y a le contexte économique, hein, qui est pas forcément favorable. Hein.
Bien sûr.
Bon, voilà, on voit que c'est compliqué, que Ubisoft, par exemple, n'est pas au meilleur de sa forme. Ubisoft, qui chaque année était à l'E3, hein, quand
vrai.
Même.
C'est vrai.
Tu te rends compte
là, je pense qu'ils vont y aller quand même, Ubisoft. Moi,
j'espère. Ouais. Microsoft, qui est on va dire pieds et poings liés avec le rachat d'Activision, on ne sait pas si ça va se faire,
c'est
etc.
Vrai,
tu vois, il y a plein de choses. Et puis il y a aussi le modèle économique du jeu vidéo qui change. Aujourd'hui, on va de plus en plus vers un mode à la Netflix finalement.
Ouais, bien sûr.
Et tu te dis bon voilà. Enfin,
je trouve qu'on
est dans une période de transition. Où les salons sont peut-être pas forcément la priorité de toutes ces grandes marques.
Ouais, c'est vrai, mais en même temps, tu peux te dire que les salons c'est aussi un bon moyen de faire des démonstrations, de montrer ces nouveaux modèles,
ouais,
tu
ouais.
vois, de mettre en avant des innovations que tu as envie de mettre en avant. Enfin, Microsoft typiquement, c'est vrai qu'ils peuvent pas trop communiquer du coup sur Activision Blizzard parce que c'est pas fait en définitive. Mais ils auraient pu avoir un énorme, t'imagines le stand Microsoft Activision Blizzard, ça aurait pu être un truc de malade, ça aurait pu être vraiment l'événement de lancement finalement de la nouvelle marque. Bon, mais c'est vrai qu'ils sont un peu empêtrés dans cette histoire. Bon, et s'ils ont 70 milliards à mettre dans une acquisition, je pense qu'ils peuvent même mettre 100 000 dollars dans un stand. Hein. Je pense qu'ils sont pas à ça près. Hein, mais...
Ouais, non, c'est sûr. Bon, on verra ce qui restera de l'E3. De toute façon, c'est maintenu toujours. Hein.
L'événement est maintenu, ouais, ce sera en juin, mais ça va devenir un salon des indépendants, quoi. Tu vois, tu te dis.
Ça va être la kermesse.
Ça va être
la kermesse du jeu vidéo.
Après, sur les indépendants, il y a des très très bons jeux, hein, donc voilà, pourquoi pas. Mais c'est vrai que ça perd un petit peu de son côté sexy.
Oui, prestige, etc. Voilà. Parce qu'on venait aussi pour voir les grosses licences.
Évidemment.
Pour terminer sur le jeu vidéo, alors, les plus anciens d'entre vous qui nous écoutez ou regardez, vous allez savoir de quoi on parle. Les plus jeunes, il va falloir quand même qu'on vous apprenne 2-3 trucs de la vie quand même, les gars. Parce que là, on va parler de GoldenEye.
Ah là là.
GoldenEye, alors évidemment, grand James Bond. Enfin, grand James Bond.
Bon, il était pas mal.
Pierce Brosnan.
Ouais, Pierce Brosnan.
Voilà, Bond.
Le deuxième meilleur James Bond derrière Daniel Craig, pour moi.
C'est vrai.
Allez.
Avec bande originale de Tina Turner, etc. Bon, enfin voilà... mythique film des années 90, on est d'accord, hein.
Ah oui,
c'est on
clair.
Est au milieu des années 90, ouais. Et à l'époque, Nintendo nous sort le jeu vidéo GoldenEye.
Ah là 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 là. Et alors là.
Et là 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 là.
97. Et c'est vrai que c'est marrant parce que ça fait partie de ces jeux, pour moi, qui ont marqué vraiment une génération. Et même, j'allais dire, même les non-gamers. C'est-à-dire que si à un moment ou un autre tu te retrouvais chez des gens puis qu'il y avait une console. Ça faisait son effet quoi. Tu te souviens d'avoir joué à GoldenEye parce que c'était un jeu incroyable. Alors pour ceux qui n'ont pas connu ça, alors pourquoi on en parle aujourd'hui déjà? Parce qu'en fait il y a une version
Switch
voilà qui sort. Ils ont modernisé un petit peu le jeu, ils l'ont ressorti et donc voilà, ça vaut le coup.
Ils sont malins parce qu'ils savent que nous on va tomber dans le panneau obligatoirement.
Tu m'étonnes, mais à 1000%. Après le mieux c'est quand même d'avoir la N64 de l'époque,
l'original,
et de jouer sur la Nintendo 64,
le petit adaptateur Péritel
évidemment,
HDMI, enfin voilà.
Évidemment je l'ai pas moi, j'ai beaucoup de vieilles consoles Nintendo mais j'ai pas la N64.
Ça c'est la galère d'ailleurs avec les
comme
il y a plus de Péritel aujourd'hui.
Ah bah t'as des adaptateurs, ouais.
Ouais, il y a des adaptateurs. Ouais.
Le mieux c'est d'avoir même une télé d'époque analogique et tout. Enfin c'était vraiment cool. Mais bon bref, moi j'avais pas de N64 à l'époque, mais j'avais un de mes meilleurs potes qui l'avait, donc on allait passer tous les après-midi chez lui à jouer à GoldenEye. C'était un jeu incroyable parce que t'avais une prise en main qui était extrêmement simple avec le système de joystick et de vue subjective. Vraiment, t'apprenais très très vite à jouer. C'était hyper jouissif parce que voilà, tu joues,
c'était un peu un jeu à la Doom et à la Quake de l'époque.
Ouais,
quoi, finalement.
Ça. C'est ça.
C'était pas sur PC, hein, c'était sur Nintendo.
C'était sur Nintendo 64.
C'était un peu le même truc, c'était du FPS.
C'était du FPS, mais avec le fameux split screen, donc tu pouvais diviser l'écran en quatre.
Ouais.
Et donc, bah, tu vois, chacun avait son petit bout d'écran, ce qui, quand même, avec le recul.
Ouais, c'est incroyable.
C'était des petites télés.
On jouait sur 10 cm carrés chacun, quoi. On voyait rien du tout.
On voyait rien, et pourtant, on y arrivait.
Et on y arrivait, on se régalait.
Et on se régalait.
On passait des après-midi formidables.
Et c'était quand même un jeu extraordinaire. C'était aussi un des premiers jeux basés sur un film. Et qui n'était pas une daube, quoi, parce qu'il y avait beaucoup d'adaptations filmiques en jeux vidéo qui étaient vraiment, enfin, c'était juste pour le business, mais en fait, oui, c'était vraiment nul. Et là, c'était voilà. Et puis il y a tout un mythe qui, alors, ça a été un carton, hein, en termes de vente.
Et puis la durée de vie de ce jeu, bien enfin, sûr. Tout était.
Tu pouvais jouer, rejouer. Alors pour la petite anecdote, j'ai appris ça en lisant un article, je trouvais ça hyper marrant. Nintendo, ça leur posait un problème parce que c'était le premier jeu où, en gros, tu tuais vraiment tes ennemis, quoi. Tu vois, James Bond, bon, voilà, t'as quand même des flingues et tu tues ton adversaire.
Tu sortais des bisounours de Super Mario, de tous ces trucs-là, quoi, de Zelda, etc.
Exactement, exactement. Et du coup, Shigeru Miyamoto, ça lui plaisait pas trop. Et donc, il a insisté pour que, à la fin du jeu, en fait, t'as une séquence post-générique où James Bond va voir ses ennemis à l'hôpital. Donc, en gros, il les a pas tués, quoi. Tu vois, c'est-à-dire. C'est marrant quand même. Je trouve que c'est une idée hyper maligne. Alors c'est très intelligent, c'est très Nintendo.
Mais bien sûr.
Et je trouve ça vraiment, ouais, c'est vraiment dans l'esprit, quoi. Enfin bref. Mais ce jeu, si vous n'y avez jamais joué parce que vous êtes trop jeune, vraiment essayez-le. Alors peut-être qu'effectivement ça vieillit par rapport au FPS d'aujourd'hui, mais pour nous, c'est vrai que c'est une Madeleine de Proust.
Il va être amélioré. Ils vont refaire les graphismes. Je sais pas trop.
De ce que j'ai vu, les graphismes sont vraiment d'époque, quoi. Donc voilà, il faut. Je l'ai pas testé sur Switch encore pour l'instant, mais je pense que ouais, il y aura un côté un petit peu. Faut se remettre dans l'état d'esprit de l'époque, quoi. Parce que si tu t'attends à jouer au dernier Call of Duty, forcément, non, là il va y avoir une déception.
C'est clair.
Faut se remettre.
Mais je pense que ça va cartonner auprès de notre génération.
Bien sûr.
Finalement,
évidemment. Hein,
tous ceux qui ont une Switch et qui ont grandi avec GoldenEye, ils vont tomber dans le panneau, ça c'est clair.
C'est clair, mais c'était un petit chef-d'œuvre, voilà.
Ouais. Ça donne envie d'y jouer, hein.
Mais grave. Mais bon. Tu sais, je sais pas, on devrait monter un concept avec voilà, une petite partie là.
Les écrans en plus, c'est pas ce qui nous manque.
Bah oui,
dans
ça
le
va.
Studio.
On
là,
a de quoi faire. Ouais.
On peut se faire un Golden Line sur l'écran qu'il y a derrière moi. On verrait les pixels, hein, je pense.
C'est possible, mais on serait pas en 10 cm là pour le coup. On aurait des vrais.
Ah ouais,
tu
ça
vois,
c'est la classe.
Là, le Golden, je crois que t'avais le pistolet d'or. C'était ça le truc, l'arme ultime dans Golden.
Ouais,
si je me souviens bien. Et tu butais tout le monde avec ça. C'était incroyable. Bon, bref.
Bon, Anthony, c'est sur cette petite pointe de nostalgie que se termine notre première partie de Quoi je me mêle. Merci encore une fois.
Ben merci à toi, merci à tous.
Toujours un plaisir que d'échanger avec toi, Anthony Morel. Et vous restez avec nous dans un instant. On va rentrer dans le dur. Là, ça va être de la technique. On va parler des routeurs 4G, 5G.
Ah, hyper intéressant. Ouais.
Petits appareils, bien pratiques. On est dans un endroit où il n'y a pas de connexion filaire. On prend ça à partir du moment où on a du réseau. Eh bien voilà, on se retrouve avec une connexion qu'on peut partager, etc. Il y a aujourd'hui des routeurs hyper performants, hein, qui font de la 5G, etc. et qui parfois même peuvent se substituer à des connexions filaires. On en parle avec Lionel Paris qui me rejoint. De quoi je me mêle, la deuxième partie tout de suite. Vous restez là, bien sûr.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.